Deuxième partie, chapitre 11. Les gens de goût nous disent aujourd'hui que Renoir est un grand peintre du XVIIIe siècle. Mais en disant cela, ils oublient le temps, et qu'il en a fallu beaucoup, même en plein XIXe, pour que Renoir fût salué grand artiste. Pour réussir à être ainsi reconnu, le peintre original, l'artiste original, procède à la façon des oculistes. Le traitement par leur peinture, par leur prose, n'est pas toujours agréable. Quand il est terminé, le praticien nous dit « Maintenant, regardez !» Et voici que le monde, qui n'a pas été créé une fois, mais aussi souvent qu'un artiste original est survenu, nous apparaît entièrement différent de l'ancien, mais parfaitement clair. Des femmes passent dans la rue, différentes de celles d'autrefois, puisque ce sont des Renoir. Ces Renoir où nous nous refusions jadis à voir des femmes. Les voitures aussi sont des Renoir, et l'eau, et le ciel. Nous avons envie de nous promener dans la forêt, pareille à celle qui, le premier jour, nous semblait tout, excepté une forêt. Et par exemple, une tapisserie aux nuances nombreuses, mais où manquaient justement les nuances propres aux forêts. Tel est l'univers nouveau et périssable qui vient d'être créé. Il durera jusqu'à la prochaine catastrophe géologique que déchaîneront un nouveau peintre ou un nouvel écrivain originaux. Celui qui avait remplacé pour moi Bergotte me lassait, non par l'incohérence, mais par la nouveauté, parfaitement cohérente, de rapports que je n'avais pas l'habitude de suivre. Le point, toujours le même, où je me sentais retombée, indiquait l'identité de chaque tour de force à faire. Du reste, quand une fois sur mille je pouvais suivre l'écrivain jusqu'au bout de sa phrase, ce que je voyais était toujours d'une drôlerie, d'une vérité, d'un charme pareils à ceux que j'avais trouvés jadis dans la lecture de Bergmotte, mais plus délicieux. Je songeais qu'il n'y avait pas tant d'années qu'un même renouvellement du monde, pareil à celui que j'attendais de son successeur, c'était Bergotte qui me l'avait apporté. Et j'arrivais à me demander s'il y avait quelque vérité en cette distinction que nous faisons toujours entre l'art, qui n'est pas plus avancé qu'au temps d'Homère, et la science au progrès continu. Peut-être l'art ressemblait-il au contraire en cela à la science. Chaque nouvel écrivain original me semblait en progrès sur celui qui l'avait précédé. Et qui me disait que dans 20 ans, quand je saurais accompagner sans fatigue le nouveau d'aujourd'hui, un autre ne surviendrait pas, devant qui l'actuel filerait rejoindre Bergotte. Je parlais à ce dernier du nouvel écrivain. Il me dégoûta de lui, moins en m'assurant que son art était rugueux, facile et vide, qu'en me racontant l'avoir vu, ressemblant, au point de s'y méprendre, à Bloch. Cette image se profila désormais sur les pages écrites, et je ne me crus plus astreint à la peine de comprendre. Si Bergotte m'avait mal parlé de lui, c'était moins, je crois, par jalousie de son insuccès que par ignorance de son œuvre. Il ne lisait presque rien. Déjà, la plus grande partie de sa pensée avait passé de son cerveau dans ses livres. Il était amaigri comme s'il avait été opéré d'eux. Son instinct reproducteur ne l'induisait plus à l'activité, maintenant qu'il avait produit au dehors presque tout ce qu'il pensait. Il menait la vie végétative d'un convalescent, d'une accouchée. Ses beaux yeux restaient immobiles, vaguement éblouis, comme les yeux d'un homme étendu au bord de la mer, qui, dans une vague rêverie, regarde seulement chaque petit flot. D'ailleurs, si j'avais moins d'intérêt à causer avec lui que je n'aurais eu jadis, De cela, je n'éprouvais pas de remords. Il était tellement homme d'habitude que les plus simples, comme les plus luxueuses, une fois qu'il les avait prises, lui devenaient indispensables pendant un certain temps. Je ne sais ce qui le fit venir une première fois, mais ensuite, chaque jour, ce fut pour la raison qu'il était venu la veille. Il arrivait à la maison comme il fut allé au café, pour qu'on ne lui parlât pas, pour qu'il pût, bien rarement, parler, de sorte qu'on aurait pu, en somme, trouver un signe qu'il fût ému de notre chagrin, ou pris plaisir à se trouver avec moi, si l'on avait voulu induire quelque chose d'une telle assiduité. Elle n'était pas indifférente à ma mère, sensible à tout ce qui pouvait être considéré comme un hommage à sa malade. Et tous les jours, elle me disait « Surtout, n'oublie pas de bien le remercier !» Nous eûmes, discrète attention de femme, comme le goûter que nous sert entre deux séances de pause la compagne d'un peintre, supplément, à titre gracieux, de celle que nous faisait son mari, la visite de Madame Cottard. Elle venait nous offrir sa camériste, si nous aimions le service d'un homme. Allait se mettre en campagne, et mieux, devant nos refus, nous dit qu'elle espérait du moins que ce n'était pas là de notre part une défaite, mot qui, dans son monde, signifie un faux prétexte pour ne pas accepter une invitation. Elle nous assura que le professeur, qui ne parlait jamais chez lui de ses malades, était aussi triste que s'il s'était agi d'elle-même. On verra plus tard que même si cela eût été vrai, cela eût été à la fois bien peu et beaucoup de la part du plus infidèle et plus reconnaissant des maris. Des offres aussi utiles et infiniment plus touchantes par la manière, qui était un mélange de la plus haute intelligence, du plus grand cœur et d'un rare bonheur d'expression, me furent adressées par le grand-duc héritier de Luxembourg. Je l'avais connu à Balbec, où il était venu voir une de ses tantes, la princesse de Luxembourg, alors qu'il n'était encore que comte de Nassau. Il avait épousé quelques mois après la ravissante fille d'une autre princesse de Luxembourg, excessivement riche parce qu'elle était la fille unique d'un prince à qui appartenait une immense affaire de farine. Sur quoi, le grand-duc de Luxembourg, qui n'avait pas d'enfant et qui adorait son neveu Nassau, avait fait approuver par la Chambre qu'il fût déclaré grand-duc héritier. Comme dans tous les mariages de ce genre, l'origine de la fortune est l'obstacle, comme elle est aussi la cause efficiente. Je me rappelais ce comte de Nassau comme un des plus remarquables jeunes gens que j'ai rencontrés. Déjà dévoré alors d'un sombre et éclatant amour pour sa fiancée. Je fus très touchée des lettres qu'il ne cessa de m'écrire pendant la maladie de ma grand-mère. Et maman, elle-même, émue, reprenait tristement un mot de sa mère. « Sévigné n'aurait pas mieux dit. » Le sixième jour, maman, pour obéir aux prières de grand-mère, dut la quitter un moment et faire semblant d'aller se reposer. J'aurais voulu, pour que ma grand-mère s'endormît, que Françoise restât sans bouger. Malgré mes supplications, elle sortit de la chambre. Elle aimait ma grand-mère. Avec sa clairvoyance et son pessimisme, elle la jugeait perdue. Elle aurait donc voulu lui donner tous les soins possibles. Mais on venait de dire qu'il y avait un ouvrier électricien, très ancien dans sa maison, beau-frère de son patron, estimé dans notre immeuble où il venait travailler depuis de longues années, et surtout de Jupien. On avait commandé cet ouvrier avant que ma grand-mère tombât malade. Il me semblait qu'on eût pu le faire repartir ou le laisser attendre. Mais le protocole de Françoise ne le permettait pas. Elle aurait manqué de délicatesse envers ce brave homme. L'état de ma grand-mère ne comptait plus. Quand au bout d'un quart d'heure, exaspérée, j'allais la chercher à la cuisine, je la trouvai causant avec lui sur le carré de l'escalier de service, dont la porte était ouverte procédé qui avait l'avantage de permettre, si l'un de nous arrivait, de faire semblant qu'on allait se quitter, mais l'inconvénient d'envoyer d'affreux courants d'air. Françoise quitta donc l'ouvrier, non sans lui avoir encore crié quelques compliments, qu'elle avait oubliés, pour sa femme et son beau-frère. Souci caractéristique de Combray de ne pas manquer à la délicatesse que Françoise portait jusque dans la politique extérieure. Les niais s'imaginent que les grosses dimensions des phénomènes sociaux sont une excellente occasion de pénétrer plus avant dans l'âme humaine. Ils devraient au contraire comprendre que c'est en descendant en profondeur dans une individualité qu'ils auraient chance de comprendre ces phénomènes. Françoise avait mille fois répété au jardinier de Combray que la guerre est le plus insensé des crimes et que rien ne vaut sinon vivre. Or, quand éclata la guerre russo-japonaise, elle était gênée vis-à-vis du tsar que nous ne nous fussions pas mis en guerre pour aider les pauvres Russes, puisqu'on est alliancés, disait-elle. Elle ne trouvait pas cela délicat envers Nicolas II, qui avait toujours eu de si bonnes paroles pour nous. C'était un effet du même code qui l'eût empêché de refuser à Jupien un petit verre dont elle savait qu'il allait contrarier sa digestion, et qui faisait que, si près de la mort de ma grand-mère, la même malhonnêteté dont elle jugeait coupable la France, restée neutre à l'égard du Japon, elle eût cru la commettre, en n'allant pas s'excuser elle-même auprès de ce bon ouvrier électricien qui avait pris tant de dérangements. Nous fûmes heureusement très vite débarrassés de la fille de Françoise, qui eut à s'absenter plusieurs semaines. Aux conseils habituels qu'on donnait, à Combray, à la famille d'un malade, « Vous n'avez pas essayé d'un petit voyage ? Le changement d'air, retrouver l'appétit, etc. » Elle avait ajouté l'idée presque unique qu'elle s'était spécialement forgée et qu'ainsi elle répétait chaque fois qu'on la voyait, sans se lasser, et comme pour l'enfoncer dans la tête des autres. Elle aurait dû se soigner radicalement dès le début. Elle ne préconisait pas un genre de cure plutôt qu'un autre, pourvu que cette cure fût radicale. Quant à Françoise, elle voyait qu'on donnait peu de médicaments à ma grand-mère. Comme, selon elle, ils ne servent qu'à vous abîmer l'estomac, elle en était heureuse, mais plus encore humiliée. Elle avait dans le midi des cousins, riches relativement, dont la fille, tombée malade en pleine adolescence, était morte à 23 ans. Pendant quelques années, le père et la mère s'étaient ruinés en remèdes, en docteurs différents, en pérégrination d'une station thermale à une autre, jusqu'au décès. Or, cela paraissait à Françoise, pour ses parents-là, une espèce de luxe, comme s'ils avaient eu des chevaux de course, un château. Eux-mêmes, si affligés qu'ils fussent, tiraient une certaine vanité de tant de dépenses. Ils n'avaient plus rien, ni surtout le bien le plus précieux, leur enfant. Mais ils aimaient à répéter qu'ils avaient fait pour elle autant et plus que les gens les plus riches. Les rayons ultraviolets, à l'action desquels on avait, plusieurs fois par jour, pendant des mois, soumis la malheureuse, les flattaient particulièrement. Le père, enorgueilli dans sa douleur par une espèce de gloire, en arrivait quelquefois à parler de sa fille comme d'une étoile de l'opéra pour laquelle il se fut ruiné. Françoise n'était pas insensible à tant de mise en scène. Celle qui entourait la maladie de ma grand-mère lui semblait un peu pauvre, bonne pour une maladie sur un petit théâtre de province. Il y eut un moment où les troubles de l'urémie se portèrent sur les yeux de ma grand-mère. Pendant quelques jours, elle ne vit plus du tout. Ses yeux n'étaient nullement ceux d'une aveugle et restaient les mêmes. Et je compris seulement qu'elle ne voyait pas, à l'étrangeté d'un certain sourire d'accueil qu'elle avait dès qu'on ouvrait la porte jusqu'à ce qu'on lui eût pris la main pour lui dire bonjour. sourire qui commençait trop tôt et restait stéréotypé sur ses lèvres, fixe, mais toujours de face, et tâchant à être vu de partout, parce qu'il n'y avait plus l'aide du regard pour le régler, lui indiquer le moment, la direction, le mettre au point, le faire varier au fur et à mesure du changement de place ou d'expression de la personne qui venait d'entrer. Parce qu'il était seul, sans sourire des yeux qui eût détourné un peu de lui l'attention du visiteur, et prenait par là dans sa gaucherie une importance excessive, donnant l'impression d'une amabilité exagérée. Puis la vue revint complètement. Des yeux, le mâle nomade passa aux oreilles. Pendant quelques jours, ma grand-mère fut sourde. Et comme elle avait peur d'être surprise par l'entrée soudaine de quelqu'un qu'elle n'aurait pas entendu venir, à tout moment, bien que couchée du côté du mur, elle détournait brusquement la tête vers la porte. Mais le mouvement de son cou était maladroit, car on ne se fait pas en quelques jours à cette transposition, sinon de regarder les bruits, du moins d'écouter avec les yeux. Enfin, les douleurs diminuèrent. Mais l'embarras de la parole augmenta. On était obligé de faire répéter à ma grand-mère à peu près tout ce qu'elle disait. Maintenant, ma grand-mère, sentant qu'on ne la comprenait plus, renonçait à prononcer un seul mot et restait immobile. Quand elle m'apercevait, elle avait une sorte de sursaut, comme ceux qui, tout d'un coup, manquent d'air. Elle voulait me parler, mais n'articulait que des sons inintelligibles. Alors, domptée par son impuissance même, elle laissait retomber sa tête, s'allongeait à plat sur le lit, le visage grave, de marbre, les mains immobiles sur le drap, ou s'occupant d'une action toute matérielle comme de s'essuyer les doigts avec son mouchoir. Elle ne voulait pas penser. Puis elle commença à avoir une agitation constante. Elle désirait sans cesse se lever, mais on l'empêchait autant qu'on pouvait de le faire, de peur qu'elle ne se rendît compte de sa paralysie. Un jour, qu'on l'avait laissée un instant seule, je la trouvais, debout, en chemise de nuit, qui essayait d'ouvrir la fenêtre. À Balbec, un jour où on avait sauvé malgré elle une veuve qui s'était jetée à l'eau, elle m'avait dit, mue peut-être par un de ces pressentiments que nous lisons parfois dans le mystère si obscur pourtant de notre vie organique, mais où il semble que se reflète l'avenir, qu'elle ne connaissait pas cruauté pareille à celle d'arracher une désespérée à la mort qu'elle a voulu et de la rendre à son martyr. Nous n'eûmes que le temps de saisir ma grand-mère. Elle soutint contre ma mère une lutte presque brutale, puis, vaincue, rassise de force dans un fauteuil, elle cessa de vouloir, de regretter. Son visage redevint impassible, et elle se mit à enlever soigneusement les poils de fourrure qu'avait laissé sur sa chemise de nuit un manteau qu'on avait jeté sur elle. Son regard changea tout à fait. Souvent inquiet, plaintif, hagard, ce n'était plus son regard d'autrefois. C'était le regard maussade d'une vieille femme qui radote. À force de lui demander si elle ne désirait pas être coiffée, Françoise finit par se persuader que la demande venait de ma grand-mère. Elle apporta des brosses, des peignes, de l'eau de Cologne, un peignoir. Elle disait « Cela ne peut pas fatiguer Madame Amédée que je la peigne. Si faible qu'on soit, on peut toujours être peigné. » C'est-à-dire, on n'est jamais trop faible pour qu'une autre personne ne puisse, en ce qui la concerne, vous peigner. Mais quand j'entrai dans la chambre, je vis entre les mains cruelles de Françoise, ravie comme si elle était en train de rendre la santé à ma grand-mère, sous les pleurements d'une vieille chevelure qui n'avait pas la force de supporter le contact du peigne, une tête qui, incapable de garder la pose qu'on lui donnait, s'écroulait dans un tourbillon incessant où l'épuisement des forces alternait avec la douleur. Je sentis que le moment où Françoise allait avoir terminé s'approchait, et je n'osais pas la hâter en lui disant « c'est assez !» de peur qu'elle ne me désobéît. Mais en revanche, je me précipitais quand, pour que ma grand-mère vît si elle se trouvait bien coiffée, Françoise, innocemment féroce, approcha une glace. Je fus d'abord heureux d'avoir pu l'arracher à temps de ses mains, avant que ma grand-mère, de qui on avait soigneusement éloigné tout miroir, eut aperçu par mégarde une image d'elle-même qu'elle ne pouvait se figurer. Mais, hélas, quand un instant après je me penchai vers elle pour baiser ce beau front qu'on avait tant fatigué, elle me regarda d'un air étonné, méfiant, scandalisé. Elle ne m'avait pas reconnu. Selon son médecin, c'était un symptôme que la congestion du cerveau augmentait. Il fallait le dégager. Cottard hésitait. Françoise espéra un instant qu'on mettrait des ventouses clarifiées. Elle en chercha les effets dans mon dictionnaire, mais ne put les trouver. Eût-elle bien dit « scarifier » au lieu de « clarifier » qu'elle n'eût pas trouvé davantage cet adjectif, car elle ne le cherchait pas plus à la lettre S qu'à la lettre C. Elle disait en effet « clarifier », mais écrivait, et par conséquent croyait que c'était écrit « S-clarifier ». Cottard, ce qui l'a déçu, donna sans beaucoup d'espoir la préférence au sangsue. Quand quelques heures après, j'entrais chez ma grand-mère, attachés à sa nuque, à ses tempes, à ses oreilles, les petits serpents noirs se tordaient dans sa chevelure ensanglantée, comme dans celle de Méduse. Mais, dans son visage pâle et pacifié, entièrement immobile, je vis, grands ouverts, lumineux et calmes, ses beaux yeux d'autrefois, peut-être encore plus surchargés d'intelligence qu'ils n'étaient avant sa maladie, parce que, comme elle ne pouvait pas parler, ne devait pas bouger, c'est à ses yeux seuls qu'elle confiait sa pensée. La pensée qui, tantôt, tient en nous une place immense, nous offrant des trésors insoupçonnés, tantôt semble réduite à rien, puis peut renaître comme par génération spontanée, par quelques gouttes de sang qu'on tire. Ses yeux, doux et liquides comme de l'huile, sur lesquels le feu rallumé qui brûlait éclairait devant la malade l'univers reconquis. Son calme n'était plus la sagesse du désespoir, mais de l'espérance. Elle comprenait qu'elle allait mieux, voulait être prudente, ne pas remuer, et me fit seulement le don d'un beau sourire pour que je susse qu'elle se sentait mieux, et me pressa légèrement la main. Je savais quel dégoût ma grand-mère avait de voir certaines bêtes, à plus forte raison d'être touchée par elles. Je savais que c'était en considération d'une utilité supérieure qu'elle supportait les sangsues. Aussi, Françoise m'exaspérait-elle en lui répétant avec ses petits rires qu'on a avec un enfant qu'on veut faire jouer. « Oh, les petites bébêtes qui courent sur madame !» C'était, de plus, traiter notre malade sans respect, comme si elle était tombée en enfance. Mais ma grand-mère, dont la figure avait pris la calme bravoure d'un stoïcien, n'avait même pas l'air d'entendre. Hélas, aussitôt les sangsues retirées, la congestion reprit de plus en plus grave. Je fus surpris qu'à ce moment où ma grand-mère était si mal, Françoise disparut à tout moment. C'est qu'elle s'était commandé une toilette de deuil et ne voulait pas faire attendre la couturière. Dans la vie de la plupart des femmes, tout, même le plus grand chagrin, aboutit à une question d'essayage. Quelques jours plus tard, comme je dormais, ma mère vint m'appeler au milieu de la nuit. Avec les douces attentions que, dans les grandes circonstances, les gens qu'une profonde douleur accable témoigne, fût-ce aux petits ennuis des autres. « Pardonne-moi de venir troubler ton sommeil, » me dit-elle. « Je ne dormais pas, » répondis-je en m'éveillant. Je le disais de bonne foi. La grande modification qu'amène en nous le réveil est moins de nous introduire dans la vie claire de la conscience que de nous faire perdre le souvenir de la lumière un peu plus tamisée où reposait notre intelligence, comme au fond opalin des eaux. Les pensées à demi voilées sur lesquelles nous voguions il y a un instant encore entraînaient en nous un mouvement parfaitement suffisant pour que nous ayons pu les désigner sous le nom de veille. Mais les réveils trouvent alors une interférence de mémoire. Peu après, nous les qualifions sommeil, parce que nous ne nous les rappelons pas. Et quand lui, cette brillante étoile, qui, à l'instant du réveil, éclaire derrière le dormeur son sommeil tout entier, elle lui fait croire pendant quelques secondes que c'était non du sommeil, mais de la veille. Étoile filante, à vrai dire, qui emporte avec sa lumière l'existence mensongère. Mais les aspects aussi du songe, et permet seulement à celui qui s'éveille de se dire « J'ai dormi !» D'une voix si douce qu'elle semblait craindre de me faire mal, ma mère me demanda si cela ne me fatiguerait pas trop de me lever. Et, me caressant les mains, « Mon pauvre petit, ce n'est plus maintenant que sur ton papa et sur ta maman que tu pourras compter. » Nous entrâmes dans la chambre. Courbé en demi-cercle sur le lit, un autre être que ma grand-mère, une espèce de bête qui se serait affublée de ses cheveux et couchée dans ses draps, haletait, geignait, de ses convulsions secouait les couvertures. Les paupières étaient closes, et c'est parce qu'elles fermaient mal, plutôt que parce qu'elles s'ouvraient, qu'elles laissaient voir un coin de prunelle, voilé, chassieux, reflétant l'obscurité d'une vision organique et d'une souffrance interne. Toute cette agitation ne s'adressait pas à nous qu'elle ne voyait pas, ni ne connaissait. Mais si ce n'était plus qu'une bête qui remuait là, ma grand-mère, où était-elle? On reconnaissait pourtant la forme de son nez, sans proportion maintenant avec le reste de la figure, mais au coin duquel un grain de beauté restait attaché. Sa main qui écartait les couvertures d'un geste qui eût autrefois signifié que ces couvertures la gênaient et qui maintenant ne signifiait rien. Maman me demanda d'aller chercher un peu d'eau et de vinaigre pour imbiber le front de grand-mère. C'était la seule chose qui la rafraîchissait, croyait maman, qui la voyait essayer d'écarter ses cheveux. Mais on me fit signe par la porte de venir. La nouvelle que ma grand-mère était à toute extrémité s'était immédiatement répandue dans la maison. Un de ces extras qu'on fait venir dans les périodes exceptionnelles pour soulager la fatigue des domestiques, ce qui fait que les agonies ont quelque chose d'effaite, venait d'ouvrir au duc de Guermantes, lequel, resté dans l'antichambre, me demandait. Je ne pus lui échapper. « Je viens, mon cher monsieur, d'apprendre ces nouvelles macabres. Je voudrais, en signe de sympathie, serrer la main à monsieur votre père. » Je m'excusai sur la difficulté de le déranger en ce moment. Monsieur de Guermantes tombait, comme au moment où on part en voyage. Mais il sentait tellement l'importance de la politesse qu'il nous faisait que cela lui cachait le reste et qu'il voulait absolument entrer au salon. En général, il avait l'habitude de tenir à l'accomplissement entier des formalités dont il avait décidé d'honorer quelqu'un. Et il s'occupait peu que les malles fussent faites ou le cercueil prêt. « Avez-vous fait venir Dieu la foi ? Ah ! C'est une grave erreur ! Et si vous me l'aviez demandé, il serait venu pour moi. Il ne me refuse rien, bien qu'il ait refusé à la duchesse de Chartres. Vous voyez, je me mets carrément au-dessus d'une princesse du sang. D'ailleurs, devant la mort, nous sommes tous égaux, » ajouta-t-il, non pour me persuader que ma grand-mère devenait son égale, mais ayant peut-être senti qu'une conversation prolongée relativement à son pouvoir sur Dieu la foi et à sa prééminence sur la duchesse de Chartres ne serait pas de très bon goût. Son conseil, du reste, ne m'étonnait pas. Je savais que chez les Guermantes, on citait toujours le nom de Dieu la foi, avec un peu plus de respect seulement, comme celui d'un fournisseur sans rival. Et la vieille duchesse de Mortemart, née Guermantes, il est impossible de comprendre pourquoi, dès qu'il s'agit d'une duchesse, on dit presque toujours « la vieille duchesse de ». Ou, tout au contraire, d'un air fin et vateau, si elle est jeune, « la petite duchesse de ». Préconisait presque mécaniquement, en clignant de l'œil, dans les cas graves, « Dieu la foi, Dieu la foi !» Comme si on avait besoin d'un glacier, poirée blanche, ou pour des petits fours, rebattez, rebattez. Mais j'ignorais que mon père venait précisément de faire demander Dieu la foi. À ce moment, ma mère, qui attendait avec impatience des ballons d'oxygène qui devaient rendre plus aisée la respiration de ma grand-mère, entra elle-même dans l'antichambre où elle ne savait guère trouver M. de Guermantes. J'aurais voulu le cacher n'importe où. Mais persuadée que rien n'était plus essentiel, ne pouvait d'ailleurs la flatter davantage et n'était plus indispensable à maintenir sa réputation de parfait gentilhomme, il me prit violemment par le bras, et malgré que je me défendisse, comme contre un viol, par des « Monsieur, monsieur, monsieur !» répétés, il m'entraîna vers maman en me disant « Voulez-vous me faire le grand honneur de me présenter à madame votre mère ?» en déraillant un peu sur le mot « mère ». Et il trouvait tellement que l'honneur était pour elle qu'il ne pouvait s'empêcher de sourire, tout en faisant une figure de circonstance. Je ne pus faire autrement que de le nommer, ce qui déclencha aussitôt de sa part des courbettes, des entrechats, et il allait commencer toute la cérémonie complète du salut. Il pensait même entrer en conversation, mais ma mère, noyée dans sa douleur, me dit de venir vite et ne répondit même pas aux phrases de M. de Guermantes, qui, s'attendant à être reçu en visite et se trouvant au contraire laissé seul dans l'antichambre, eut fini par sortir si, au même moment, il n'avait vu entrer Saint-Loup, arrivé le matin même et accouru aux nouvelles. « Ah, elle est bien bonne !» s'écria joyeusement le duc en attrapant son neveu par sa manche qu'il faillit arracher, sans se soucier de la présence de ma mère qui retraversait l'antichambre. Saint-Loup n'était pas fâché, je crois, malgré son sincère chagrin, d'éviter de me voir, étant donné ses dispositions pour moi. Il partit, entraîné par son oncle, qui, ayant quelque chose de très important à lui dire, et ayant failli pour cela partir à Doncières, ne pouvait pas en croire sa joie d'avoir pu économiser un tel dérangement. Ah ! Si on m'avait dit que je n'avais qu'à traverser la cour et que je te trouverais ici, j'aurais cru à une vaste blague. Comme dirait ton camarade Monsieur Bloch, c'est assez farce. Et tout en s'éloignant avec Robert, qu'il tenait par l'épaule, « C'est égal, répétait-il. On voit bien que je viens de toucher de la corde de pendu ou tout comme. J'ai une sacrée veine. » Ce n'est pas que le duc de Guermantes fût mal élevé. Au contraire. Mais il était de ces hommes incapables de se mettre à la place des autres, de ces hommes ressemblant en cela à la plupart des médecins et aux croque-morts, et qui, après avoir pris une figure de circonstance, et dit « Ce sont des instants très pénibles. Vous avoir au besoin embrassé et conseillé le repos, ne considère plus une agonie ou un enterrement que comme une réunion mondaine, plus ou moins restreinte, où, avec une jovialité comprimée un moment, ils cherchent des yeux la personne à qui ils peuvent parler de leurs petites affaires, demander de les présenter à une autre, ou offrir une place dans leur voiture pour les ramener. » Le duc de Guermantes, tout en se félicitant du bon vent qui l'avait poussé vers son neveu, resta si étonné de l'accueil pourtant si naturel de ma mère qu'il déclara plus tard qu'elle était aussi désagréable que mon père était poli, qu'elle avait des absences pendant lesquelles elle semblait même ne pas entendre les choses qu'on lui disait, et qu'à son avis, elle n'était pas dans son assiette, et peut-être même n'avait pas toute sa tête à elle. Il voulut bien cependant, à ce qu'on me dit, mettre cela en partie sur le compte des circonstances et déclarer que ma mère lui avait paru très affectée par cet événement. Mais il avait encore dans les jambes tout le reste des saluts et révérences à reculons qu'on l'avait empêché de mener à leur fin, et se rendait d'ailleurs si peu compte de ce que c'était que le chagrin de maman qu'il demanda, la veille de l'enterrement, si je n'essayais pas de la distraire. Un beau-frère de ma grand-mère, qui était religieux et que je ne connaissais pas, télégraphia en Autriche où était le chef de son ordre et, ayant par faveur exceptionnelle obtenu l'autorisation, vint ce jour-là. Accablé de tristesse, il lisait à côté du lit des textes de prière et de méditation, sans cependant détacher ses yeux en vrille de la malade. À un moment où ma grand-mère était sans connaissance, la vue de la tristesse de ce prêtre me fit mal, et je le regardai. Il parut surpris de ma pitié, et il se produisit alors quelque chose de singulier. Il joignit ses mains sur sa figure, comme un homme absorbé dans une méditation douloureuse. Mais, comprenant que j'allais détourner de lui les yeux, je vis qu'il avait laissé un petit écart entre ses doigts, et au moment où mes regards le quittaient, j'aperçus son œil aigu qui avait profité de cet abri de ses mains pour observer si ma douleur était sincère. Il était embusqué là, comme dans l'ombre d'un confessionnal. Il s'aperçut que je le voyais et aussitôt clôtura hermétiquement le grillage qu'il avait laissé entr'ouvert. Je l'ai revu plus tard, et jamais entre nous il ne fut question de cette minute. Il fut tacitement convenu que je n'avais pas remarqué qu'il m'épiait. Chez le prêtre, comme chez l'aliéniste, il y a toujours quelque chose du juge d'instruction. D'ailleurs, quel est l'ami, si cher soit-il, dans le passé, commun avec le nôtre, de qui il n'y ait pas de ces minutes dont nous ne trouvions plus commode de nous persuader qu'il a dû les oublier. Le médecin fit une piqûre de morphine et, pour rendre la respiration moins pénible, demanda des ballons d'oxygène. Ma mère, le docteur, la sœur les tenaient dans leurs mains. Dès que l'un était fini, on leur en passait un autre. J'étais sorti un moment de la chambre. Quand je rentrais, je me trouvais comme devant un miracle. Accompagné en sourdine par un murmure incessant, ma grand-mère semblait nous adresser un long chant heureux qui remplissait la chambre, rapide et musical. Je compris bientôt qu'il n'était guère moins inconscient, qu'il était aussi purement mécanique que le râle de tout à l'heure. Peut-être reflétait-il dans une faible mesure quelque bien-être apporté par la morphine. Il résultait surtout, l'air ne passant plus tout à fait de la même façon dans les bronches, d'un changement de registre de la respiration. Dégagé par la double action de l'oxygène et de la morphine, le souffle de ma grand-mère ne peinait plus, ne geignait plus, mais vif, léger, glissait, patineur, vers le fluide délicieux. Peut-être à la laine, insensible comme celle du vent dans la flûte d'un roseau, se mêlait-il, dans ce chant, quelques-uns de ces soupirs plus humains qui, libérés à l'approche de la mort, font croire à des impressions de souffrance ou de bonheur chez ceux qui déjà ne sentent plus, et venaient ajouter un accent plus mélodieux, mais sans changer son rythme, à cette longue phrase qui s'élevait, montait encore, puis retombait pour s'élancer de nouveau de la poitrine allégée à la poursuite de l'oxygène. Puis, parvenu si haut, prolongé avec tant de force, le chant, mêlé d'un murmure de supplication dans la volupté, semblait à certains moments s'arrêter tout à fait, comme une source s'épuise. Françoise, quand elle avait un grand chagrin, éprouvait le besoin si inutile, mais ne possédait pas l'art si simple de l'exprimer. Jugeant ma grand-mère tout à fait perdue, c'était ses impressions à elle, Françoise, qu'elle tenait à nous faire connaître. Et elle ne savait que répéter « Cela me fait quelque chose ». Du même ton dont elle disait, quand elle avait pris trop de soupe aux choux, « J'ai comme un poids sur l'estomac ». Ce qui, dans les deux cas, était plus naturel qu'elle ne semblait le croire. Si faiblement traduit, son chagrin n'en était pas moins très grand. Aggravé d'ailleurs par l'ennui que sa fille, retenue à Combray, que la jeune parisienne appelait maintenant la Cambrousse, et où elle se sentait devenir Pétrousse, ne put vraisemblablement revenir pour la cérémonie mortuaire que Françoise sentait devoir être quelque chose de superbe. Sachant que nous nous épanchions peu, elle avait à tout hasard convoqué d'avance Jupien pour tous les soirs de la semaine. Elle savait qu'il ne serait pas libre à l'heure de l'enterrement. Elle voulait du moins, au retour, le lui raconter.